au réseau Cogeco. Auto 360
avec Daniel Boudreau.
L'automobile sous toutes ses soutures, ses coutures, c'est en tout cas.
Auto 360.
Auto 360. Voici la chronique luxe, prestige et histoire avec Philippe Lagu.
Nous sommes de retour, oui, avec Philippe Lagu, mais pour cette fois-ci, parler de Formule 1, il faut parler de cette saison. Je ne sais pas comment qualifier cette saison-là. J'ai hâte de voir Philippe, parce que moi, j'ai eu de l'intérêt par l'entremise de Lance Stroll, je dois être honnête.
Oui, mais à part Lance Stroll, ça a quand même été une saison intéressante. Parce que là, pour une fois au moins, c'était pas...
une domination de Mercedes.
J'allais dire un one-man show, ou plutôt un one-équipe show. Là.
Ouais.
C'est ça, c'était pas juste Mercedes, c'était pas juste les deux pilotes de Mercedes qui étaient capables de se battre pour le titre. Au moins, Ferrari a été là. Et c'est important de dire que cette année, c'est pas Mercedes qui a gagné le championnat. C'est Ferrari qui l'a perdu. Et la nuance est importante parce que Ferrari, vraiment, là, ils se sont torpillés. Ils ont perdu ce championnat-là par leur propre faute. Ils n'avaient pas une voiture qui était meilleure que la Mercedes, qui était au moins égale. Puis même meilleure, peut-être, oui, parce qu'à la rigueur, elle était un petit peu plus polyvalente.
Je pense qu'en début de saison, Philippe, elle était meilleure, cette voiture-là.
Ben, carrément.
Ferrari, mais
carrément.
Les problèmes de fiabilité ont scrappé leur saison.
Il y a eu de la fiabilité, mais écoute, il y a eu des erreurs depuis, oui, aussi, si tu me permets l'expression. Là, hein? Vettel, là, au Grand Prix à Singapour, là, quand ils sont rentrés dedans avec Raikkonen, puis qu'ils ont pris Verstappen en sandwich, là, c'était pas très, très glorieux, vraiment pas. Puis quand tu es en lutte pour le titre, tu fais pas une erreur comme ça. Puis tu fais pas une erreur comme ça quand tu t'appelles Sébastien Vettel puis tu es un quadruple champion du monde. Puis tu fais pas une erreur comme ça quand tu pilotes pour Ferrari, point à la ligne. Puis tu sais, après ça, là, honnêtement, je me rappelle plus c'était à quel Grand Prix, là, c'était vers la fin de la saison, un problème de bougie avec une des voitures. Là, écoute, là, hein, tu te bats pour le championnat du monde, là, puis t'as un problème de spark plug, comme on disait en bon québécois dans le temps, là. Faire franchement, c'est un peu gênant, là. C'est un peu honteux. Alors, il y a eu quelques épisodes comme ça chez Ferrari, et c'est pour ça que je te disais tantôt, ils ont vraiment perdu le championnat parce que Mercedes était pas si dominant que ça cette saison. Hamilton, ben, c'est Hamilton. Faut jamais le compter pour battu. Puis je pense aussi que, entre les deux oreilles, Hamilton a été plus fort que Vettel. Il y a joué dans la tête. Et il a gagné. Il a gagné.
Comme il a été plus fort que Rosberg l'année dernière.
Mais Rosberg, lui, Rosberg avait, avait quand même gagné le championnat. Parce
moi, je
ne
suis pas le fan numéro un de Hamilton, mais je dois respecter le pilote. Je dois dire
qu'il
fait vraiment tout ce qu'il faut faire pour gagner.
Ça en est tout un. Puis, tu sais, oublie pas une chose. Là, on disait cette année, c'est pas Mercedes qui a gagné le championnat, c'est Ferrari qui l'a perdu. L'année dernière, c'est pas Hamilton, c'est pas Rosberg qui a gagné le championnat, c'est Hamilton qui l'a perdu. Parce qu'Hamilton, en 2016, avait raté 4 de ses départs. Et n'eût été de ça, c'est probablement lui qui aurait été champion. Parce qu'effectivement, psychologiquement, il avait l'avantage sur Rosberg. Mais quand même. Alors, bref, saison très intéressante qui nous a amené, évidemment, des déceptions, des surprises parmi les belles surprises, ou en tout cas, c'est pas une surprise, mais une belle performance, encore une fois, c'est Force India. Hein. Ils ont été ultra, ultra réguliers, les deux pilotes de Force India, Sergio Perez et Esteban Ocon. Soyez sûrs d'une chose, si ces gars-là étaient dans une Ferrari, dans une Mercedes ou dans une Red Bull, ils gagneraient des courses. C'est vraiment deux excellents pilotes. Ils sont fiables, ils sont constants. Bon, des fois, les petits coqs se sont battus un petit peu trop. Il a fallu instaurer des consignes d'équipe chez Force India, mais quand même, c'est devenu la quatrième force en puissance de la Formule 1, il faut le dire. Ça, ça veut dire que c'est la meilleure des autres. Parce qu'on le sait, Red Bull, Ferrari, Mercedes, c'est dans une classe à part. Il y a à peu près juste ces trois équipes-là qui peuvent gagner des courses. Mais Force India, vraiment. Puis avant, la meilleure des autres, c'était Williams.
Mm-hmm.
Ce qui nous amène à parler de Lawrence Stroll. Pas Lawrence, excuse-moi, j'ai fait un lapsus. C'est son père, de Lance. De Lance Stroll. Et Lance, oh, que ça a été difficile hein, cette année.
Là, parle-moi, écoute, juste avant qu'on parle de Lance,
vas-y.
Parce qu'il y a deux, choses.
Oui.
Là, tu vas me séparer le pilote et la voiture.
C'est difficile de le faire, mais vas-y.
Est-ce que Lance a eu cette saison-là parce qu'il n'y avait pas la bonne voiture ou est-ce que la voiture était moyenne puis Lance a été moyen, donc ça a donné des résultats très ordinaires? Est-ce que la voiture et l'écurie ont son rôle à jouer dans la saison catastrophique de Lance?
En partie, mais pas beaucoup. Parce que Lance disposait quand même de la cinquième meilleure voiture du plateau. On l'a dit, il y en a trois là, qui sont hors d'atteinte. Ferrari, Mercedes, Red Bull. Et ils se sont maintenant fait dépasser par Force India. Mais après Force India, c'est qui la meilleure équipe? C'est pas mal Williams.
Ben oui.
Et Lance, bon, d'abord, il a été particulièrement inexistant en qualification. Hein? Parce que son coéquipier, Felipe Massa, c'est 17-2 au niveau des qualifications. Il y a eu 20 Grands Prix. Massa a raté une épreuve pour des raisons de santé, mais 17 fois, il s'est qualifié en avant de Lance Stroll. Et Massa, c'est un pilote de 36 ans. C'est un gars qui est une seconde moins rapide qu'il l'était il y a 10 ans. C'est quand même pas... Tu sais, c'est pas un pied de céleri, Felipe Massa, mais non, c'est non. Plus le Felipe Massa d'il y a 10 ans non plus. Et Lance, tu sais, c'est un jeune et ça aurait dû, quelque part, être un de ses avantages là-dessus aussi. Tu sais, justement, plus jeune, réflexe plus aiguisé, plus intrépide, etc., etc. Et pourtant, Lance Stroll a accusé un retard moyen de près de 7 dixièmes de seconde pendant toute la saison. Souvent, là, Felipe Massa roulait une seconde pleine plus vite que Lance Stroll. Et surtout, ce qu'on a vu, c'est qu'au cours de la saison, il n'y a pas eu de véritable signe de progression là, en performance pure. Là. Il ne s'améliorait pas dans les qualifications. Il y a des courses, écoute, où il était carrément le pilote le plus lent en piste. C'est quand même pas rien. Là. Puis d'ailleurs, la presse britannique n'a pas manqué de le souligner. Puis là, c'est important de spécifier que tu sais, justement, on parlait de Felipe Massa, là, qui roule une seconde moins vite que le Massa de 2007. Et ça, c'est une autre comparaison qui fait mal à Lance Stroll. Parce que, regarde, si on compare McLaren et Williams, c'est deux équipes qui ont plusieurs points en commun. Hein, c'est deux grandes écuries qui vivent en ce moment des années un petit peu plus difficiles et qui ont une paire de pilotes assez semblables. Chez McLaren, tu as un vétéran qui est bien établi, Fernando Alonso. Puis t'as un jeune espoir, le Belge Stoffel Vandoorne. Puis Vandoorne, il a souffert lui aussi de la comparaison avec Alonso cette année. Sauf qu'Alonso, lui, il est aussi rapide qu'il y a 10 ans. Contrairement à Felipe Massa, qui est un cheval beaucoup moins fringant pour plusieurs raisons. Je pense que psychologiquement, ça a eu un impact quand il a perdu le championnat du monde dans la dernière course en 2008. Puis je pense surtout que c'est son terrible accident là, qui a eu un impact aussi. Alors, ça fait une différence. Mais Alonso, c'est toujours Alonso. Alors, autrement dit, c'est plus gênant dans ces conditions-là d'être moins rapide que Felipe Massa. Ceci étant dit, si on regarde la colonne des plus, il y a évidemment sa place en première ligne, pardon, lors des qualifications du Grand Prix d'Italie, hein, sous la pluie. Ça, c'est un exploit et il le doit seulement à lui-même. Il n'a pas bénéficié de circonstances favorables. Il pleuvait pour tout le monde.
Ah oui.
Bon, c'est aussi le seul pilote non Mercedes, non Ferrari et non Red Bull qui s'était lancé de la première ligne en 2017. Et si on regarde du côté course, parce que là, on vient de regarder le côté qualification, en course, le bilan n'est pas trop brillant là non plus, mais là aussi, il y a quelques bons moments. Ils se comptent sur les doigts d'une seule main, c'est vrai, mais ils sont là. On le sait, au début de la saison, ça a été difficile, hein? Trois abandons coup sur coup, mais finalement, Lance a écrit ses premiers points en Formule 1 vers la mi-saison, là, à domicile, au Grand Prix du Canada, avec une 9e place. Tout de suite après Montréal, là, bing, c'est son coup d'éclat cette saison. Il finit 3e au Grand Prix d'Azerbaïdjan. Et encore une fois, il est le seul pilote qui appartient, qui n'est pas avec Mercedes, Ferrari ou Red Bull, qui est monté sur le podium en 2017. C'est vrai que le Grand Prix d'Azerbaïdjan, ça a été mouvementé. C'est vrai qu'il y a eu des circonstances qui lui ont été favorables. Il y a eu des accidents, il y a eu un paquet d'affaires. Mais tu sais, être bon en Formule 1, c'est aussi être capable de se tenir loin du trouble. Et ça, là-dessus, Lance, il est bon. Ensuite, bon, regarde après ça. Là. Il était 7e en Italie, il est d'un point. C'est 7e, là, c'est à peu près là que tu devrais te classer avec une Williams. Là. Le top 5, c'est un petit peu difficile, là, mais après ça, là, ils ont une voiture pour ça, là, pour être dans la deuxième partie du top 10, là, entre 5 et 10. Alors, 7e en Italie, 8e à Singapour, 8e en Malaisie. Puis là, ben après ça, c'est un jeu de serpent et d'échelle. Tu sais, il redevient invisible pendant une course, deux courses, puis après ça, whoop, on le revoit, 6e place à Mexico, puis après ça, bing, invisible dans les deux dernières courses. C'est vraiment mystérieux.
Qu'est-ce que tu vois pour 2018?
Ben honnêtement, je suis optimiste quand même, pour deux raisons. Puis c'est pas parce que je veux faire ma cheerleader, c'est pas tellement mon genre, tu me connais assez pour ça. Mais bon, d'abord, il y a une saison d'expérience, ce qui lui manquait cruellement cette année. Hein, le petit gars, là, parce que c'est ça, comme dirait Ron Fournier, là, un petit bébé, là. Hein, ils appellent comme ça, lui, les jeunes joueurs du Canadien. Là. Mais tu sais, Lance, écoute, il arrive, là, il vient d'avoir 18 ans, puis il commence en Formule 1. Et surtout, il est passé de la Formule 3 directement à la Formule 1. C'est sûr qu'il y a des talents d'exception, là, comme lui, Max Verstappen, qui sont capables de faire ça, mais c'est rare.
Lui pourrait s'améliorer, mais est-ce que l'écurie va s'améliorer?
Ben, je pense que oui, parce que, bon, faut pas oublier une chose, hein, le directeur technique de Williams, il s'appelle Paddy Lowe. C'est un Britannique, et ça, c'était le directeur technique de Mercedes avant. Mercedes, hein, qui collectionne les championnats depuis 3 ans. Alors, c'est sûr que cette année, Paddy Lowe venait d'arriver chez Williams. Donc, la Williams qu'on avait cette année, c'était pas la sienne. On n'a pas encore vu la première Williams, tu sais, là, qui a été conçue sous la supervision de Paddy Lowe. Alors, est-ce qu'on va avoir une meilleure voiture l'année prochaine? Ça, il y a des grosses chances. On va avoir un Lance qui a plus d'expérience. Ma seule crainte, c'est que Lance, puis je vais terminer avec ça, Lance, il a besoin d'un coéquipier pour le tirer vers le haut. Et là-dessus, je pense que Massa faisait la job. C'était aussi un très bon mentor pour Lance. L'année prochaine, le coéquipier de Lance Stroll, c'est un pilote russe, Sergei Sirotkin. C'est un gars qui n'a jamais disputé de Grand Prix. Il a fait des essais. Il a été 3e pilote avec Renault, mais il n'a jamais disputé une course de F1. Son palmarès dans les rangs inférieurs, il n'est pas médiocre, mais il n'est pas étincelant non plus. Aucun championnat. Je pense vraiment pas que c'est un pilote qui va tirer Lance vers le haut. Est-ce qu'on a voulu...
Pilote d'expérience aurait été de mise pour Lance l'an prochain.
Ah, mais tellement.
Rapidement, là, qu'est-ce que tu vois là, dans l'échiquier? Ferrari, Mercedes, Alfa Romeo qui arrive, évidemment.
Ouais, ben Alfa Romeo, là...
McLaren, un nouveau moteur. Qu'est-ce que tu vois là, pour 2018, rapidement?
Alfa Romeo, je vois pas grand-chose. C'est le moteur Ferrari rebadgé. Par contre, ça va beaucoup, beaucoup aider Sauber, parce que là, ils vont avoir un moteur Ferrari, même s'il va avoir une écussion Alfa Romeo dessus, là.
Ouais.
Mais ils vont avoir le moteur Ferrari de l'année en cours. Alors qu'avant, dans les anciennes associations de Sauber avec Ferrari, ils avaient le moteur de la saison d'avant. Tandis que là, ils vont avoir le même moteur, ça va les aider beaucoup. Sauber, c'est une équipe qui a progressé aussi vers la fin de la saison. Ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas gardé Pascal Wehrlein, qui est quand même vraiment un authentique espoir, puis c'est un gars qui aurait pu les amener plus haut. Mais en même temps, ils ont tout un espoir entre les mains. Ça, retiens ce nom-là, Daniel. Charles Leclerc. Et comme son nom ne l'indique pas, c'est pas un Québécois, c'est pas un Leclerc du Bas-Saint-Laurent, c'est un Monégasque, mais lui, il a été très impressionnant cette année en Formule 2. Il a tout brûlé et il fait partie de la filière Ferrari. C'est pour ça qu'on l'a placé chez Sauber, d'ailleurs. Donc ça va être un gars à surveiller. Puis l'autre équipe à surveiller l'année prochaine, ça va être McLaren. Parce que là, McLaren, ils pouvaient tout mettre sur le dos de Honda. Ils ont mis fin à leur association avec Honda. Là, l'année prochaine, ils vont avoir le moteur Renault, le même moteur que Red Bull et l'écurie Renault. Alors là, ils n'auront plus d'excuses.
Ils vont pas se battre en avant.
Ben, ils ont quand même Fernando Alonso. Hein. Je pense que c'est un pilote que n'importe quelle équipe prendrait encore aujourd'hui.
Terminant, il a été savoureux encore cette année dans ses commentaires, M. Alonso.
Oh ouais.
Bravo, ça c'est le fun. Il est agréable à suivre. Écoute, on pourrait en parler encore une demi-heure, Philippe. Une demi-heure, trois quarts d'heure.
C'est quand tu veux, hein?
Mais on va devoir se reprendre. Merci beaucoup, Philippe. Fort apprécié.
Salut, Daniel. Ça a été un plaisir de travailler avec toi.
Oui,
vraiment.
Superbe. Merci, Philippe.
Salut. Passe des bonnes fêtes.
Alors, au retour, toi de même. Au retour de la pause, on prend vos appels. Je vous donne les numéros tout de suite. Montréal, 514-790-9850. Québec, 418-670-9330. Ailleurs, 1-866-790-9850. Auto 360 à cogecomedia.com. On vous revient.
Au réseau Cogeco.
Vous écoutez Auto 360.
Auto 360.
Avec Daniel Boudreau.
Voilà, nous sommes de retour et on y va en ligne immédiatement. On a Ernest en ligne. Bonjour.
Oui, bonjour, ça va bien?
Ben oui.
Oui, allô? Oui, oui. Félicitations pour votre émission. Écoutez, vas-y. Je magasine actuellement un VUS, puis je regarde pour le Tiguan, la version allongée, le nouveau 2018, ou le Atlas avec le 3.6. Je voulais avoir vos commentaires par rapport à ça. C'est fiable.
Ouais, ça, oui, vous, mais là, vous parlez de deux véhicules assez différents, cependant. Okay. L'Atlas est beaucoup plus gros. C'est un véhicule qui est beaucoup plus imposant. Un peu moins sexy du point de vue de la silhouette, je vous dirais. Mais c'est un véhicule que moi, j'ai beaucoup aimé. Le Tiguan arrive avec un nouveau moteur 2 litres. L'espace arrête. Je ne sais pas si vous avez vraiment besoin de l'espace supplémentaire pour les 7 passagers. C'est sûr que dans le cas du Tiguan, c'est un peu tiré par les cheveux d'aller s'asseoir en arrière. Là, faut faire un peu de contorsion pour y arriver. C'est un véhicule qui est plus agréable en conduite, qui est un peu plus dynamique. Moteur 2 litres turbo, cependant, souffre un peu quand le véhicule est plein de gens. Enfin, c'est quand même un 7 places. Honnêtement, si c'est ce que vous cherchez, si vous avez besoin d'un 7 places, à mon avis, l'Atlas est un meilleur choix.
Marc a absolument raison. Écoutez, la seule raison pour laquelle vous allez prendre l'Atlas, c'est l'espace additionnel. Si vous n'avez pas besoin de cet espace-là, vous n'avez pas besoin de l'Atlas. Moi, j'aime le Tiguan, j'aime le format du Tiguan, mais évidemment, c'est une question de besoin en espace, parce que le comportement routier, pour moi, personnellement, j'aime mieux conduire le Tiguan que conduire l'Atlas. Si vous faites beaucoup de grandes routes, peut-être que l'Atlas peut être un peu plus confortable pour la très grande route, mais il n'y a pas une grande différence.
Non, c'est vraiment une question d'espace, en fait.
Puis, si on compare le RAV4 en VUS avec le Tiguan?
Encore là, ben, vous allez voir que au niveau espace, c'est sensiblement la même chose. Donc là, à ce moment-là, ça se ressemble. Mais au niveau comportement, la conduite du Tiguan est différente et est un peu plus assurée que celle du RAV4. Par contre, là, on vient de gagner peut-être un peu de valeur de revente, on vient de gagner peut-être un peu de fiabilité avec le RAV4.
Alors, je suis d'accord avec Daniel Serrard, mais je suis d'accord avec lui.
Merci, Ernest, bien gentil.
Merci, au revoir.
C'est le fun, l'harmonie avant le temps des fêtes demain, Marc.
C'est ça.
On se rejoint juste au bon moment.
Exactement. Là, après, j'attends mon cadeau, par exemple, je te le dis. Là.
Il est par la poste. Je l'ai envoyé par la poste. Sois patient. Jacques est là. Bonjour, Jacques.
Oui.
Oui, c'est à vous.
Allô?
Oui, Jacques.
Bonjour, messieurs. J'ai besoin d'un cadeau de Noël. Ah. En 2014, octobre, j'ai pris possession d'un Outback 2015. Et au mois de janvier 2015, j'ai été obligé d'amener la voiture au garage et ils ont confirmé que bruit de moteur exagéré. Alors, ils sont empressés d'ouvrir le moteur et de découvrir que les bielles ou les rods, comme vous voudrez, ils n'avaient à 38 mm, 37, 25, 39. La norme est 25. Alors, sur 4 cylindres, il y en a 3 qui sont hors norme. Et ils ont le culot de dire que plus loin, je lis directement du document, là, qu'ils ont pris pièce dans un autre moteur pour faire la réparation. Et le moteur cogne encore. Et je suis rendu à 20 000 kilos. Et quand la réparation a été faite, c'était à 1775 kilomètres. Allô?
Oui. Je vous écoute. Là, je suis bouche bée, j'ai la mâchoire qui vient de tomber sur le,
ben, la mienne sur aussi, le bureau.
Parce que, écoutez, moi, le problème que j'ai avec Subaru présentement, c'est qu'à chaque fois que je leur pose une question, la première chose qu'on me dit, c'est réglé. C'est réglé, il n'y a plus de problème de moteur, parle-moi plus des problèmes de moteur, c'est réglé. Il n'y a plus de consommation d'huile, il n'y a plus de moteur qui claque. Là, on parle d'un 2015, et là, vous êtes pogné avec la même affaire. Alors, écoutez, ce que vous allez faire, par contre, là, c'est... il n'y a pas d'autre chose que votre concessionnaire qui peut vous aider, le constructeur. Moi, je dois être honnête,
je ne mentionnerai pas son nom, mais il n'est pas empressé.
Ils ont toujours réparé les moteurs. Faut que je sois honnête dans ce côté-là. Des fois, ça peut être un petit peu long, mais ils ont toujours pris leur responsabilité. Ça, je leur donne. Mais c'est tellement désagréable d'avoir à vivre ça.
J'ai envoyé une lettre enregistrée avec copie de tous les documents au président du temps, M. Ciro Ota, et je n'ai jamais eu de réponse de M. Ota, naturellement. Et c'est un de ses représentants qui est venu au garage, a écouté le moteur, bon. Ben là, il est normal, là. Mais il cogne encore comme un cochon. On dirait que c'est un diesel.
Mais par contre, il y a une personne qui m'a montré un moteur qui avait 400 000 km, puis qui flacotait un petit peu, puis qui a fait 400 000 km. Donc, de ce côté-là, s'il manque pas d'huile, vous allez pouvoir faire quand même longtemps, mais c'est très désagréable. Et là, ce que j'entends, puis ce que je comprends, c'est que Subaru vient de perdre un client. Caroline, que c'est plate. Merci, Jacques, d'avoir appelé.
Bonne journée.
Merci. On a Étienne qui est en ligne. Bonjour, Étienne.
Oui, bonjour, ça va bien?
Oui.
Oui. Félicitations pour votre émission en partant.
Merci.
Ben, moi, j'ai une petite question. J'ai une Toyota Matrix 2005 TRD. Mmh. 130 000 kilos. Elle va super bien. Elle ne coûte rien. C'est super. Mmh. Mais je vais probablement la changer d'ici 2 ans, donc pour 2016-2017. Je voulais savoir aujourd'hui, présentement, qu'est-ce qu'il y aurait de comparable, 4 portes, hatchback, mais la colle manuelle, s'il vous plaît.
Est-ce que la
quelque
IM...
chose encore de manuel?
La IM se fait. La IM se fait en version manuelle.
Ouais.
Et vous êtes chez Toyota, vous demeurez chez Toyota, beau format. Moi, c'est une des voitures que j'aime bien, la IM. Donc, vous allez même gagner de l'espace à l'arrière avec la nouvelle IM. Vous allez avoir enfin un environnement au goût du jour, parce que dans la Matrix, c'est moi, l'intérieur, là, je ne sais pas comment vous avez fait faire 130 000 km, là, l'intérieur et tout ça. C'est un peu... c'est une grande amélioration. Alors, la première voiture, puis il y en a beaucoup dans le petit hatchback qui sont très intéressantes, là. Mais si vous êtes chez Toyota, vous aimez le véhicule, regardez du côté de la IM. On l'appelait la Sion IM avant, là. Maintenant, c'est la Toyota IM.
Sinon, j'attendais l'autre personne qui parlait avant, des Subaru. Je pensais à les Subaru, genre peut-être hardback ou ça.
Mais là, vous tombez dans un véhicule qui est beaucoup plus dispendieux au départ et qui a pas tout à fait les mêmes qualités. Et si vous voulez faire ça, vous allez aller chercher une Impreza ou un Crosstrek, par exemple. Crosstrek pourrait être intéressant parce qu'il y a une garde au sol un peu plus élevée. Vous avez aussi un espace de chargement. Moi, j'aime beaucoup le nouveau Crosstrek, ce qu'ils ont fait avec, ils l'ont bien amélioré. Ça pourrait être un bon choix aussi, évidemment. Oui, c'est vrai, les moteurs Subaru, c'est vrai qu'ils claquent à froid, là, on va se le dire. Mais en soi, c'est pas un problème. C'est dérangeant, mais c'est pas un problème. Mais ce serait aussi une autre alternative intéressante.
OK, ben je pense voir ça dans la IM. Je pense que ça pourrait être intéressant. Merci beaucoup.
Allez faire l'essai de la IM, très intéressante. Merci, joyeuse fête à vous, Étienne. Merci d'appeler et de collaborer à l'émission. Hugo est en ligne. Bonjour, Hugo.
Oui, bonjour. Moi, j'aimerais savoir vos recommandations par rapport à un Q7 vis-à-vis le XC90. J'ai besoin de 7 places confortables.
Je suis un maniaque.
Ben, confortable.
J'aime le XC90. On va régler ça. Là. Il y en a deux dans les 7 là, qu'il faut tirer au sort, qui sont assis en arrière, là, qui vont être plus ou moins confortables. On peut-tu dire ça?
Oui, oui. Okay. Ouais, ouais.
C'est en général ceux que vous aimez le moins qu'on envoie dans la troisième rangée.
Oui, c'est ça.
J'aime beaucoup le XC90. Il est moderne. C'est un véhicule qui est bien construit. On a fait un beau travail intérieur-extérieur du côté de chez Volvo. Pendant des années, je ne les recommandais pas. Je n'étais pas rendu là. Maintenant, oui. Le XC60 également. Le XC40, je l'aime énormément de ce qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire. Le Q7, c'est pas un mauvais véhicule. C'est un gros véhicule, luxueux, de l'espace. C'est deux concurrents vraiment nez à nez.
Ouais. Le Q7 a probablement plus de technologies de tout le genre, là. Les nouveaux systèmes d'aide à la conduite, les nouveaux systèmes de conduite semi-autonome. On est très, très fort là-dessus chez Audi.
Vous en voulez pas?
Ça, j'en veux pas.
Ah ben, si vous en voulez pas, vous êtes mieux de vous tourner vers le Volvo dans ce cas-là, parce que le Q7, c'est presque standard sur toutes les versions. Et je suis comme Daniel, le Volvo XC90, moi j'ai un fait, puis l'intérieur du XC90, écoutez, c'est encore les sièges les plus confortables de l'industrie, ça. Mm-hmm. Ça fait des années que c'est comme ça, puis j'ai pas trouvé de défaut à ces sièges-là encore.
Mais faites attention, vous allez avoir de la technologie dans le XC90, là.
Oui,
vous allez avoir... Par rapport à l'écran, est-ce que c'est difficile pendant qu'on conduit, utiliser ça, le gros écran, la tablette?
En conduisant, vous n'aurez pas à l'utiliser. Vous allez pouvoir faire la plupart des commandes avec ce que vous avez comme bouton sur le volant ou encore de façon vocale, mais
il
est placé très haut. C'est ça qui est le fun. Il est placé très haut et l'espace où on appuie dans l'écran, l'espèce d'iPad qu'il y a dans le centre, bien, les boutons sont gros. Alors, ça ne demande pas de quitter les yeux de la route. C'est ça qui est intéressant avec le Volvo, de la façon que c'est placé. Alors, allez faire l'essai des deux véhicules. Vous n'avez pas de mauvais véhicule dans les deux, là, mais le XC90, vous m'en reparlerez.
C'est quand même fiable maintenant, le XC90?
Oui, absolument.
Je veux dire, le Volvo?
Oui. Le Volvo est maintenant aussi fiable.
Fiable à long terme, j'ai pas de doute à ce niveau-là non plus. Là, Audi, point d'interrogation pour le très long terme, même s'ils se sont améliorés beaucoup.
OK.
Merci, Hugo.
OK, parfait. Merci beaucoup. Bonne fête.
Bon magasinage. Hey, des beaux véhicules, ça. Beau cadeau de Noël.
Ouais, j'aimerais ça magasiner ça, moi aussi, il me semble.
Ouais,
que...
hein. Ouais. Beau, beau cadeau. On continue les appels. Restez là.
Au réseau Cogeco.
Vous écoutez Auto 360.
Auto 360.
Avec Daniel Boudreau.
Nous voilà de retour. Merci d'être là en ligne. Montréal, 514-790-9850. Québec, 418-670-9330. Ailleurs, 1-866-790-9850. Auto 360 à cogecomedia.com. Marc, juste avant ta nouvelle, on me demande, est-ce que j'ai des nouvelles du RAM 2019?
Ben, en fait, le RAM 2019 va être dévoilé à Détroit, au Salon de l'Auto, début janvier. C'est une des grandes nouveautés. En même temps, faut le dire, que le nouveau Silverado. Silverado, on l'a vu cette semaine parce que Chevrolet célébrait son 100e anniversaire. Ils ont fait toutes sortes d'événements là au Texas et ils ont dévoilé entre autres leur Silverado maintenant allégé. Ils veulent utiliser des fibres de carbone, des matériaux. Bon, mais ils vont officiellement donner tous les détails à Détroit contre le Ram 2000.
Est-il en aluminium? Est-ce qu'on rejoint Ford comme la rumeur le veut?
Non, pas encore.
On parle d'une boîte en fibre de carbone.
Exactement.
Ce serait la grosse nouveauté.
Plus l'acier haute densité qui permet d'alléger, mais ça, tout le monde le fait sur tous les types de véhicules. Maintenant,
la cabine sera en acier.
Oui, c'est ce qu'on dit.
J'ai hâte de voir. Et le RAM, il y a quelque chose qui a coulé. Il y a une information qui a coulé concernant le RAM 2019. Apparemment, le panneau de la boîte arrière serait séparé en deux. Donc, ce serait plus un seul grand panneau. Ce serait deux petits panneaux. Ça pourrait être utile, ça pourrait être pratique. Pourquoi pas? Alors, ça reste à confirmer, évidemment, comme tu l'as dit. Ça va être à Détroit.
Quand on fouille, d'ailleurs, il y a des photos espions de ce RAM-là. Et c'est, mettons, 6633, là, le panneau. Là. C'est donc une partie plus grande, une partie plus petite. J'ai bien hâte de voir si ça va fonctionner.
Bien hâte. Et on parle d'un design assagi. Alors que GM essaie de devenir de plus en plus agressif avec ses calandres et tout ça pour rejoindre Ford et RAM, justement, on parle de possiblement un RAM 2019 assagi au niveau du design. J'ai bien hâte de voir. Alors, Samy, t'es en ligne. Bonjour, Samy.
Oui, bonjour, ça va bien?
Ben oui, superbe.
Excellent. Moi, j'ai une question simple. Déjà, pour commencer, oui, les moteurs Subaru claquent. J'en ai eu deux, puis ça claque très fort.
Bon, joyeux Noël, Subaru, joyeux Noël!
Non, mais c'est des bonnes autos, pareil, je recommande. C'est des excellentes autos, la Outback Legacy. Mais ma question, c'est au sujet du nouveau Atlas de Volkswagen. C'est une auto qui m'intéresse. Et je veux savoir ce que vous en pensez, le modèle tout équipé Airline.
Alors moi, j'ai comme je l'ai dit tantôt, au niveau du Atlas, c'est l'espace qui prime d'abord. C'est un beau véhicule qui est bien construit. Moi, je suis un peu déçu de la partie avant. J'aurais aimé que Volkswagen soit un petit peu plus moderne dans le rendu de son véhicule. À l'intérieur, ça va, très moderne. Le comportement n'est pas aussi assuré. Évidemment, c'est un véhicule qui est plus gros, qui est plus lourd, donc on ne parle pas du même type de conduite qu'un Tiguan. Moi, c'est ce que je m'attendais. Et le Touareg. Donc, c'est ça que je m'attendais. C'est un véhicule qui est un peu plus mou, mais faut faire attention, là. C'est un véhicule qui se prête davantage à une conduite sur l'autoroute. C'est le confort total. Tu t'en vas, les gens qui roulent avec ça. Mais le reste, j'ai aucun problème au niveau de la mécanique qui est connue. Donc, c'est un véhicule, encore une fois, qui va bien vieillir. Vous allez pouvoir faire longtemps avec. Moi, je le recommande sans réserve, mais il faut faire un essai routier de ce véhicule. Si vous n'avez pas besoin de tout l'espace du Atlas, je vous conseille de faire aussi l'essai du Tiguan.
OK. Parce qu'en fait, je passe d'un X5 à ce modèle-là.
Vous allez grossir. Vous allez grossir.
Oui, et vous allez perdre beaucoup en luxe, là. Hein? C'est clair que là,
Oui, mais c'est plus le confort, je pense, retrouver du confort, parce que dans nos routes québécoises, le X5 n'est pas adapté, parce que on sent tous les cailloux, tous les bosses, tous les nids de poule, on sent tout.
Quand je parlais d'un véhicule plus mou, Samy, là, c'est exactement ce que je voulais dire. C'est un véhicule où vous ne sentirez pas les bosses, les trous et tout ça. Ça va être beaucoup plus confortable de ce côté-là, vous visez dans le mille.
Ça fait cependant que quand vous conduisez de façon un petit peu plus dynamique, ben là, vous avez un peu moins de sensations de conduite. Alors que dans un véhicule comme le Tiguan, ce qu'on parlait tantôt, vous allez encore ressentir ça.
Ou le Q5 que vous avez là, ça va être différent au niveau de la conduite. un bon essai routier, mais vous ne serez pas déçu parce que ce que vous recherchez, vous allez le retrouver dans le Atlas sans aucun problème. Merci d'avoir appelé. On a Yvon en ligne. Bonjour Yvon.
Oui, bonjour. En fait, je suis bien content pour les deux spécialistes. J'ai deux questions pour vous.
Oui.
La toute première, écoutez, moi j'ai présentement une Passat TDI Highline 2013. Je suis rendu à 150 000 kilos. Bien honnêtement, je l'aime bien en passant. Donc, l'économie d'essence, je fais beaucoup de routes. Je fais souvent des allers-retours, le Québec-Ottawa. Donc, ce qui me permet de faire à l'occasion du 4.9. Donc, c'est quand même assez exceptionnel ce type de véhicule-là. Je veux grossir. Je veux trois critères. Mon premier critère est le confort. Puis quand je parle de confort, c'est principalement au niveau du son, l'habitacle, tout l'aspect intérieur. Deuxième, l'économie et le plaisir de conduire. J'hésite entre trois véhicules usagés des années 2015. La Audi A6, que j'ai un petit faible. La Audi A7, que je commence à m'habituer, que je trouve particulièrement jolie. Mercedes et aussi là, la BM dans la série 5. Et tous diesel. Tous BlueTech ou TDI. Vous en pensez quoi?
Écoutez, moi, j'ai un faible pour la A7. C'est un véhicule dont j'aime beaucoup le style, dont j'aime beaucoup l'allure, dont j'aime le comportement routier. C'est un très bon véhicule. J'ai aussi un petit sweet spot, si vous me permettez l'expression, pour la série 5 de BMW, qui de tout temps a été une des meilleures berlines de sa catégorie et l'une des plus économiques, une de celles qui procure le plus de sensations de conduite. Alors, moi, mon choix serait entre ces deux véhicules-là. Je vous le dis, le A7, faut aimer le look, faut aimer le genre. Moi, j'adore ça, mais je suis pas une référence, pas une toujours. Mais honnêtement, la série 5, c'est un véhicule avec lequel vous serez jamais déçu. D'aucune
façon. La A7, là, elle est vraiment. Moi, j'élimine la A7 parce que vous me parlez de confort. La A7 est davantage dédiée vers le côté un peu plus. C'est une A6 sport. Donc, vous allez aller plus du côté sport. Donc, ça, pour cet élément-là, je l'enlève. La BMW série 5, je l'aime énormément. Si vous choisissez ce véhicule d'occasion-là chez le concessionnaire, BMW a un plan de garantie pour les véhicules d'occasion qui est extrêmement complet, qui peut même inclure l'entretien, l'usure de certaines composantes. Moi, si vous pouvez vous trouver une série 5 diesel chez votre concessionnaire, chez un concessionnaire BMW, j'irai dans cette direction-là. La A6, je suis persuadé qu'elle va coûter un petit peu plus cher d'entretien, mais ça reste, il reste nez à nez avec la série 5. C'est les deux concurrentes de toujours. Puis la classe A chez Mercedes, je ne l'enlève pas du lot. Si on peut se trouver un véhicule qui pourrait vous intéresser, elle est très près également.
Ouais, moi, la classe A, cependant, 2015, j'avoue que je l'aime. La nouvelle classe A...
2015, les amortisseurs cognaient, c'est vrai.
Exactement. J'avoue que l'actuelle classe E, si vous étiez dans une voiture neuve, je vous dirais que la classe A, elle est probablement dans les deux premières. Mais comme on est dans 2015, la classe A, j'ai quelques hésitations, j'avoue.
Bon, ben,
c'est pas évident.
Vous me confirmez mon hésitation depuis deux semaines que je commence à chercher. Mais les modèles A6 et A7 au niveau diesel chez Audi, ils sont rares présentement. Donc, j'espère éventuellement d'en retrouver des retours de bail ou des trucs comme ça parce qu'ils sont plutôt rares suite au fameux scandale.
Merci beaucoup, Yvon, d'avoir appelé. C'est bien gentil et bon magasinage dans cette belle catégorie de véhicules. Luc est là. Bonjour, Luc.
Bonjour. Moi, je regarde en 4 VUS. Le nouveau terrain 2018, 2 litres turbo.
Oui.
Le Ford Escape, le Santa Fe, puis il y a peut-être le CX-9. Là, lui, je ne sais pas comment il peut tirer. Il doit tirer au moins 3500 livres, lui, avec.
Le CX-9, je pense qu'il n'y a à peu près pas de il y a
pas une grosse capacité de remorquage. Puis vous allez vous retrouver avec un véhicule qui est pas mal plus dispendieux. Là. Un CX-9 équipé, là, c'est facilement 45-50
000. Là. Fait qu'on va rester les modèles d'abord, dans le terrain, l'Escape puis le Santa Fe. Là.
Alors, Daniel est un fan fini du terrain 2 litres de turbo.
J'ai bien aimé ce 2 litres turbo terrain-là. Mais le Santa Fe vient un peu plus gros. Hein. Il est un petit peu plus gros que les autres véhicules, que l'Escape, parce que Escape terrain, c'est deux véhicules nez à nez, mais c'est des petits véhicules d'entrée de gamme. Il faut se garder ça en tête. Même si j'ai bien aimé la façon qu'il s'est comporté avec une remorque, j'ai tracté avec ce véhicule-là. j'ai eu du plaisir, j'ai aimé la stabilité. Pour la grosseur du véhicule, j'ai aimé la stabilité, j'ai aimé la puissance des freins également qui a fait le travail. Alors ça, c'est deux véhicules, si vous n'avez pas besoin d'espace, qui vont faire le travail. Si vous avez besoin d'un peu plus d'espace, Santa Fe, Sorento, on les met dans la même gang. Santa Fe, Sorento, c'est également des choix logiques si vous avez besoin d'un peu plus d'espace. Sorento va vous permettre d'avoir un V6 pour un prix à peu près équivalent à un terrain ou à un Escape tout équipé. Donc ça, c'est pas à dédaigner dans votre choix. Ça dépend qu'est-ce que vous tractez et combien de kilométrage vous faites avec vos charges.
Okay. Mais le Santa Fe, ça se peut-tu que lui, c'est pas toujours sur le 4x4 qu'il débraye à un moment donné à tant de kilométrage? Ça pourrait-tu arriver, ça?
Ah ben oui, parce que là, vous pouvez verrouiller le système de 4 roues motrices à basse vitesse.
Ah ok, c'est ça, à haute vitesse,
vous avez, une espèce de bouton lock pour barrer le système de 4 roues motrices. Quand vous roulez dans une route accidentée à basse vitesse ou dans la neige à basse vitesse, vous pouvez le verrouiller. Ou si vous sortez un bateau ou si vous stationnez votre remorque ou votre unité de roulotte ou quelque chose du genre à basse vitesse, c'est très pratique ce système-là.
Tandis que l'Escape ou l'autre, le terrain, ben lui, à haute vitesse, peut rouler pareil sur le 4 roues. C'est ça.
Quatre roues motrices. Et maintenant, là, la nouvelle technologie fait que ces véhicules-là ont des choix de terrain. Donc, vous pouvez avoir une boîte de transmission où vous choisissez si vous êtes dans la neige, vous êtes dans la boue, vous êtes dans la roche, vous êtes dans la gadoue, peu importe. Et vous choisissez le sélecteur de terrain. Ça, c'est vraiment très agréable, ce système-là. Ça fonctionne bien. Au début, c'était un gadget. Hein. Je me souviens plus qui a sorti ça dans tout le début. Je sais que Range Rover l'avait, là, mais dans les véhicules plus bas de gamme, il y a une marque qui ont commencé à sortir ça, mais ça fonctionnait pas à tout. Ça changeait à peu près rien dans le système de 4 roues motrices. Maintenant, ça change quand même pas mal. Merci d'avoir appelé Terrain ou Escape, allez-y, ou Santa Fe. Je pense qu'on a été assez clair ou on l'a mélangé davantage, monsieur. Peu importe. Au retour de la pause, on essaie d'être plus clair.
Au réseau Cogeco, Auto 360.
Avec Daniel Boudreau.
L'automobile sous toutes ses soudures, ses coutures, c'est en tout cas.
Auto 360.
Ses soudures, ses coutures. J'aime ça.
Oui, ça, c'est... ça te fait sourire chaque fois, ça.
Ah, ça me fait sourire chaque fois, j'aime bien ça. Alain est en ligne. Bonjour, Alain.
Bonjour, messieurs.
Bonjour.
Oui, moi, présentement, j'ai une Prius V 2012. Mm-hmm. Là, je magasine, ben, je regarde pour acheter un VUS hybride branchable. Là, j'ai dans la mire la fameuse Kia Niro, qui n'est pas encore sur le marché, et la Subaru Crosstech qui va venir en hybride branchable à la fin de l'année 2018. Est-ce que vous avez la chance de voir ces deux véhicules-là?
Ben, le Niro, oui, mais pas en version hybride branchable encore. En version hybride, OK, ça fait le travail, c'est superbe. Le premier vrai VUS, entre guillemets, je mets des guillemets, là, le premier vrai VUS branchable hybride, c'est le nouveau Outlander qui va arriver dans les prochains jours. Si ce n'est pas déjà fait, là, une semaine, deux semaines, trois semaines, là, ça sera vraiment pas long. Et lui va arriver dans un vrai format, donc dans un bon format où il offre beaucoup d'espace. Je pense que c'est tout près de 50 km d'autonomie lorsqu'il est branché, purement électrique. Après ça, il y a le moteur à essence qui va continuer évidemment de faire le travail. Donc, vous allez avoir une autonomie respectable au niveau du véhicule. Et vous allez avoir aussi un système de 4 roues motrices.
Ah oui, c'est vrai. Parce que le Niro, je pense qu'il est seulement qu'à traction.
Ça va être le seul là, qui va arriver hybride branchable. Vous allez pouvoir rouler 100% électrique avec un beau système de 4 roues motrices de l'espace. C'est le seul et vous devriez le vérifier parce qu'au niveau des prix, c'est là que Mitsubishi m'a jeté à terre parce qu'on parle de 36 ou 37 000 $ et il est éligible aux 8 000 $ si je ne me trompe pas.
Donc, exactement, parce qu'il est plus que 16 là, kWh.
Au niveau du prix, ça commence à être vraiment intéressant.
Ouais. Combien de kWh là?
Puis c'est au-delà, c'est 16,4 de mémoire.
Ah, ben 16, qui est la batterie. Moi, je suis en Ontario, puis plus que 16, c'est jusqu'à 14 000 $ de subvention. Donc,
C'est un véhicule que vous devriez considérer, à mon avis, si vous cherchez vraiment le type sport utilitaire, donc rangement, et en plus pouvoir bénéficier d'un 4 roues motrices. Sinon, Niro, à venir jusqu'à maintenant, c'est un beau petit véhicule qui fait le travail, mais il n'y a pas beaucoup d'espace. Vous allez avoir moins d'espace que dans votre Prius V.
C'est ça. Et yo,
Oui, avec un Niro.
Ouais, puis il y a le Hyundai Stonic là, qui va arriver aussi bientôt, là, qui fait aussi partie de ça. Ouais. Ben, il va arriver avant fin 2018. Monsieur parlait d'un Crosstrek à la fin de 2018. Alors, on est pas mal dans le même, la même gamme d'arrivée.
Ah, OK. Ben, merci beaucoup.
Merci, Alain. Merci. Joyeuse fête à vous également. Christian est en ligne. Bonjour, Christian.
Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien?
Très bien.
Oui. Allô? Oui, c'est pour... moi, j'avais avant une TDI Volkswagen. Ils nous l'ont enlevé pour, à cause du scandale Volkswagen. Oui. Puis j'ai entendu dire qu'il y a la Jaguar diesel. Comment que vous trouvez ça, la Jaguar diesel?
La XE diesel est un véhicule que moi, j'ai beaucoup aimé. Vraiment beaucoup aimé. C'est un moteur qui est intéressant, qui est nerveux, qui fonctionne bien, qui est économique. J'ai rien à redire. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez effectivement en main une Jaguar. Oui, il n'y a pas autant de sophistication que dans les gros Jaguars, on s'entend, mais il n'y a pas la facture qui vient avec non plus. Donc, vous avez un véhicule qui se comporte très bien et qui a vraiment un moteur très agréable, une boîte de vitesse aussi qui est très efficace. Honnêtement, moi, c'est un des véhicules que j'ai beaucoup aimé cette année en version diesel. En version essence, on pourrait s'en reparler, mais en version diesel, j'ai beaucoup aimé ce moteur-là.
C'est parce qu'il n'y a aucune garantie après 60 000 km. Il ne donne aucune garantie. Après 60 km, ils ne l'ont pas encore. Il n'y a pas de garantie prolongée.
Ben moi, je pense que je serais pas inquiet de rouler ce véhicule-là pour du haut kilométrage. C'est des moteurs diesel habituellement qui sont bâtis très solides. Jaguar ou de l'expérience. Donc, moi, je pense pas qu'il y ait de problème. Okay. Il est très doux. Il est économique également, ce moteur-là. Évidemment, là, on aurait travaillé tout le système d'antipollution du véhicule. Donc, ils sont un peu plus étouffés. La consommation n'est pas aussi basse que ce que réussissait à faire Volkswagen. Mais non. Vous allez avoir quand même une bonne consommation. Puis un véhicule qui va pouvoir rouler du haut kilométrage, puis il va bien, Marc a raison. Là. Le moteur, il est doux, il est souple.
Là, il y avait l'autre aussi, il y a BMW 320 quelque chose qui est diesel aussi.
Oui, mais là, on change de bracket parce qu'il faut s'en aller dans le X5.
Oui.
Dans la série 5, oui.
Série 5, vous voulez dire de BMW?
Parce que vous voulez rester dans les berlines?
BM, eux autres, ils ont le BM qui est actuellement diesel. Ils l'ont, là.
Mais là, vous parlez d'un autre véhicule, d'un autre genre de véhicule. Je préfère le Jaguar, honnêtement. C'est une simple question de plaisir personnel.
Merci, Christian, d'avoir appelé. Robert est en ligne. Bonjour, Robert.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Entendez-vous bien?
Ben oui.
Oui, félicitations pour votre émission.
Merci.
À vrai dire, moi, je voudrais avoir une information plutôt générale de votre part concernant les voitures électriques à du long terme. Je comprends que ça fait pas si longtemps que c'est sur le marché, mais on regardait pour une voiture électrique, soit une Bolt, soit une Golf électrique. Et ce qui m'inquiète un peu, c'est que j'ai vu, entre autres, une Mitsubishi électrique qui avait sa... un problème d'air climatisé et qui refroidissait les batteries avec cet air climatisé-là. Et le coût de réparation était faramineux, environ 5 000 $ pour réparer un air climatisé. Mais là, je me posais la question, dans l'électrique, qu'est-ce qu'on doit regarder? Je comprends, les batteries, ça peut durer longtemps puis que ça a une garantie assez prolongée.
Robert, je dois vous couper là-dessus. On a déjà plus de temps, mais je vais vous dire qu'ayez pas peur pour les voitures électriques. On a réduit les composantes. Je suis persuadé que ça va faire du haut kilométrage. Il y a des batteries qui existent depuis le début des années 2000. Alors, soyez pas inquiets avec les voitures électriques. C'est, je pense, l'avenir et ça va être fiable. C'est prouvé là, que ça coûte moins cher à entretenir que les voitures à essence. Je veux remercier Philippe de sa participation à l'émission. Merci beaucoup, Marc.
Joyeux Noël, mon cher.
Joyeux Noël à tous et prudence sur les routes.